France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 février. Agnès Soubiron, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la lente agonie des habitants d'Idlib en Syrie, la province encore aux mains des rebelles et des djihadistes et sous le feu quotidien des forces de Damas. L'envoyé spécial de France Inter, Aurélien Colli, a pu se rendre à la frontière turco-syrienne. Reportage dès le début de ce journal, après les autres titres.
Un timide retour à la normale à Pékin, alors que l'épidémie de coronavirus ralentit en Chine. En Europe, au contraire, les mesures se multiplient et de nombreux secteurs sont touchés, notamment l'automobile. Des œufs plus chers mais qui respectent les animaux, c'est la séquence du jour au Salon de l'agriculture. Et puis un nouveau héros sur les écrans de cinéma, Marc Ruffalo, en défenseur de l'environnement face à l'industrie, dans Dark Waters.
Invité de France Inter ce matin, 7h50 Léa.
Les consignes ont été données pour les écoles et les crèches. Les enfants rentrés d'Italie ou de Chine sont priés de rester chez eux pendant 14 jours. La mesure est-elle suffisante? Est-elle arrivée trop tard? Pour les parents qui s'inquiètent, le ministre de l'Éducation nationale fera le point avec nous ce matin. Jean-Michel Blanquer sera là à 7h50.
À tout à l'heure Léa, à 8h20, nous recevons dans le grand entretien de la matinale la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Vous pourrez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert.
France Inter.
Le funeste décompte est quasi quotidien. Au moins 20 civils, dont 9 enfants, tués hier lors de l'offensive menée par le régime de Bachar al-Assad, qui a reconquis la ville de Kafrandel, dans la province d'Idlib, où survivent encore plus de 3 millions de Syriens. Ces derniers jours, la violence a atteint son paroxysme. L'ONG Save the Children a dû lancer un appel pour que les écoles soient épargnées, après la mort d'un élève et de 3 enseignants. Pour fuir ces attaques, près d'un million de civils ont pris la route de l'exode, mais pour aller où? La frontière turque reste fermée et les camps sont surpeuplés. L'envoyé spécial de France Inter, Aurélien Colli, est l'un des rares reporters occidentaux à avoir pu rejoindre Reyhan Lee à la frontière turco-syrienne. Reportage.
Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas d'abri. Les gens dorment dehors, les enfants sont en train de mourir. C'est catastrophique. Témoignage de Hassan, recueilli au poste frontière de Reyhan Lee, où ne passent que les militaires turcs qui vont renforcer leur position à Idlib, quelques ONG qui opèrent encore dans l'enclave, et de rares Syriens comme Hassan qui bénéficient d'un laissez-passer. Les hôpitaux sont bombardés, les écoles où s'entassent des déplacés aussi. Tout le monde s'est retranché près de la frontière pour être plus en sécurité, ajoute ce médecin au visage marqué par la fatigue et le désespoir. Le régime et son allié russe poussent les civils vers la frontière. Ils sont près d'1,5 million désormais, juste de l'autre côté, derrière les collines, confirme Mustafa Özbek, responsable d'une ONG turque qui ne s'attend pas à l'ouverture prochaine de la frontière. 4 millions de réfugiés vivent déjà ici en Turquie. Si ces civils passent, ce sera très difficile à accepter pour les Turcs. Beaucoup essaieront aussi d'aller en Europe, souligne l'humanitaire avant de lancer un appel. Nous avons besoin de la France, de l'Allemagne, de l'Europe, de l'ONU avec la Turquie pour trouver une solution et faire stopper ces attaques contre les civils. Ils réclament l'instauration d'une zone de sécurité où ces populations seraient enfin protégées et aidées. Reyhan Lee, Aurélien Colli, France Inter.
Hier, le comité international de la Croix-Rouge s'est dit vivement préoccupé par la situation et de son côté, le ministre russe des Affaires étrangères qui soutient le régime de Damas a rejeté les appels au cessez-le-feu, estimant, je cite, que ce serait une capitulation face aux terroristes.
Il est 7h04, Agnès, l'épidémie de coronavirus avec en Chine un bilan au plus bas depuis 3 semaines.
52 nouveaux décès seulement, serait-on tenté de dire hier, et 406 nouvelles contaminations, des chiffres en net recul par rapport au plus fort de l'épidémie. Plusieurs provinces ont donc annoncé un premier assouplissement. Ainsi, à Pékin, quelques commerces rouvrent timidement. Reportage dans un salon de coiffure de la correspondante permanente de France Inter en Chine, Dominique André.
La coiffeuse ouvre la porte du salon équipée de son masque sur le visage et de gants de protection. Je distribue des tickets aux clients qui attendent de dehors sur le trottoir, dit-elle. Quand un client entre, on prend sa température, on enregistre son nom et quand il repartira, je désinfecterai tout le matériel et son fauteuil. Ce sont donc les conditions pour que ce petit salon d'un quartier traditionnel du centre de Pékin ait eu l'autorisation de rouvrir. Madame Wang, 62 ans, une habitante du quartier, et soulagée de retrouver son salon de coiffure et de voir surtout que son quartier revit un peu.
Je vois qu'il y a seulement 3 clients, 2 hommes et une femme, mais il faut sortir de chez soi. Et on sait bien qu'il faut éviter les zones où il y a beaucoup de monde. Les services qui concernent la vie quotidienne refonctionnent.
Quelques jours après les consignes de Xi Jinping pour une reprise du travail, tout en poursuivant le combat contre l'épidémie, on observe quelques frémissements dans la capitale. Dans les services, les banques pourront ouvrir en moyenne 2 jours par semaine. Demain, le gouvernement chinois organise aussi une visite pour la presse pour montrer la reprise du travail dans 2 usines près de la capitale. Beaucoup de Pékinois espèrent reprendre leur travail la semaine prochaine. Pékin, Dominique André, France Inter.
Les conséquences économiques justement de cette épidémie qui touche une 30aine de pays dans le monde sont de plus en plus lourdes. Dernier exemple, Nestlé a décidé de suspendre tous ses voyages d'affaires jusqu'à mi-mars. Air Canada prolonge jusqu'à début avril la suspension des vols vers Pékin et Shanghai. Le salon du meuble et du design de Milan est reporté. La filière automobile est également très inquiète, d'autant plus, Fabien Cazot, que le secteur était déjà fragilisé.
Le coronavirus frappe de plein fouet l'industrie automobile à 2 niveaux. D'abord sur le plan commercial. En Chine, premier marché mondial, les ventes ont chuté de 92% sur la première quinzaine de février par rapport à l'année dernière. Autant dire qu'on ne vend quasiment plus aucune voiture en Chine depuis le début du mois. Ensuite, sur le plan industriel, ce sont surtout les équipementiers qui sont touchés, notamment Faurecia avec ses 4 usines situées à Wuhan, ou Plastic Omnium qui en possède 3 dans la région du Roubaix. La production n'est pas encore touchée en France, mais elle pourrait l'être d'ici un mois. Les stocks de pièces détachées qui alimentent actuellement l'Hexagone ont été chargés de Chine avant le blackout, mais les livraisons sont actuellement interrompues. Face à cette situation, Bercy compte demander aux constructeurs de faire preuve de flexibilité vis-à-vis de leurs fournisseurs. Une clause de force majeure est à l'étude. Elle pourrait être invoquée pour justifier de retards dans l'exécution de contrats et se doubler de mesures financières, notamment le report à la demande de dettes sociales et fiscales pour les entreprises les plus touchées.
Sur le plan sanitaire, la France compte 2 nouveaux cas. Une jeune femme chinoise et un Français ayant séjourné en Lombardie. Leur état n'inspire aucune inquiétude. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché, avec 11 morts et plus de 300 personnes contaminées. Les ministres européens de la Santé réunis hier en Italie ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'annuler les grands événements publics à venir. La rencontre Olympique Lyonnais-Juventus Turin ce soir en 8e de finale de la Ligue des Champions est donc maintenue, malgré les réticences de certains élus locaux de la région lyonnaise. Enfin, l'espoir ce matin est porté par le directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, Didier Raoul, qui affirme que la chloroquine, médicament utilisé contre le paludisme, donne de bons résultats dans le traitement du Covid-19. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h08, des contrats républicains pour lutter contre le séparatisme islamiste.
C'est la suite concrète du discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière à Mulhouse. Le chef de l'État a reçu hier à l'Élysée les représentants d'associations agissant dans le domaine de l'éducation, de la culture et du sport. Il a confirmé une enveloppe de 100 millions d'euros sur 3 ans pour les 80 cités éducatives, c'est-à-dire dans ces quartiers où les actions de l'État et des associations sont renforcées et coordonnées. Mode d'emploi signé Sonia Princé.
L'objectif est de contrôler les associations qui reçoivent des financements publics et notamment celles qui accueillent des mineurs, pour s'assurer que ces subventions sont bien utilisées, que les animateurs, les intervenants payés par ces associations respectent bien les principes républicains. Exemple donné par l'Élysée, si une collectivité alloue un budget de 15 000 euros à une association sportive, mais qu'à la mi-temps d'un match, on fait faire la prière aux enfants, alors le préfet peut demander des comptes à l'association et la restitution des financements, voire, mais c'est encore à l'étude, aller jusqu'à la dissolution de certaines d'entre elles. Tout doit être juridiquement minutieusement étudié, précisent les conseillers du président Macron. Il ne s'agit pas simplement d'une charte de la laïcité, mais plutôt d'un engagement à respecter plus largement les valeurs de la République, comme l'égalité homme-femme, la lutte contre l'antisémitisme. Cela fera l'objet d'une loi, mais le texte doit être équilibré pour ne pas sanctionner des associations qui font un vrai travail sur le terrain. L'Élysée cite les scouts musulmans qui ne pourraient pas être financés si l'on se cantonnait à une charte de la laïcité, d'où ce nouveau concept de contrat républicain.
Et rappelons que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité de France Inter tout à l'heure à 7h50. Après un faux départ lundi pour cause de grève des avocats, le procès du couple Fillon débute aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Et puis le retour de Pierre Botton devant la justice. L'ex-homme d'affaires est soupçonné d'avoir détourné l'argent de son association de lutte contre la récidive. Il va comparaître jusqu'au 4 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. Et quand certains cherchent la poule aux œufs d'or, la marque Poulhouse propose l'œuf qui ne tue pas la poule. Cette marque, présente au salon de l'agriculture et dans presque tous les rayons des supermarchés, a fait le choix non seulement de ne plus abattre les poules dès qu'elles sont moins productives, mais elle s'est aussi lancée dans des technologies qui évitent le broyage des poussins. Explication de Manuel Ruffez.
Le président de Poolhouse le reconnaît, nos œufs sont au moins deux fois plus chers que les autres. Et il concède même qu'ils sont tout aussi bons que ceux deux fois moins chers. Mais voilà, comme lui, quand il a pris conscience du phénomène, les consommateurs sont touchés par le sort des poules et des poussins. Fabien Solman de Poolhouse.
À la naissance, on sépare les mâles et les femelles. On tue les mâles le jour de leur naissance. On coupe les becs des femelles et on les laisse vivre et pondre pendant 18 mois. Et on les tue à leur tour, alors qu'en fait, elles pourraient vivre 6, voire même 10 ans.
Ça fait combien d'animaux morts, soit juste après la naissance, soit après 18 mois ?
100 millions, disons 50 millions de mâles tués à la naissance et 50 millions de poules femelles tuées à 18 mois.
Par an, bien sûr. Et si on les tue, ces poules, c'est parce qu'elles sont moins productives. Chez les éleveurs de Poolhouse, elles meurent de leur belle mort. Et plus encore, ils sont déjà engagés vers la fin du broyage des poussins mâles, par sélection, dès l'œuf.
La technologie allemande de Select est vraiment la meilleure au monde aujourd'hui puisqu'elle permet d'agir à J+9, donc sur une éclosion qui intervient au 21e jour. On est à un stade où l'animal n'est pas développé. À J+9, on est capable d'identifier si on aura un mâle ou une femelle et on va couver que les œufs femelles. Et il n'y aura pas de douleur du tout dans le fait qu'on retire les œufs mâles à 9 jours.
On appelle ça le sexage in ovo et c'est pour toutes ces raisons que les œufs sont plus chers et pourtant, ça marche.
Le Salon de l'agriculture, c'est jusqu'au 1er mars, porte de Versailles à Paris. Et quand la lutte pour la défense de l'environnement inspire le cinéma, après l'énorme succès d'Erin Brockovich, voici Dark Waters avec Mark Ruffalo, un film de Tom Haynes, inspiré là aussi de faits réels, la lutte d'une communauté rurale contaminée par un dangereux produit chimique. Tom Haynes s'interroge également dans ce film, Eva Bétan, sur le fonctionnement de la société américaine.
Ça, en apparence, tout d'un film dossier avec les codes qui vont avec, des paysans pauvres contacte un avocat, leur bête meurt car un géant de l'industrie empoisonne leur sol. Si cet avocat, qui conseille d'ordinaire les entreprises de la chimie, change de camp, c'est que les faits sont scandaleux et le spectateur passe de la stupeur à la révolte. Il y a plus. Todd Haynes, maître du mélodrame subversif en ce qu'il montre l'envers violent des sociétés policières, ici est plus directement, plus frontalement politique, au-delà même de la dénonciation d'un scandale environnemental. L'air dans ce film semble vicié, l'atmosphère plombée, comme si la contamination s'étendait plus largement, comme si c'était tout un mode de vie qui était empoisonné, le fameux American Way of Life. Todd Haynes.
Ça devient une métaphore du système sous lequel nous vivons et auquel nous participons d'une manière ou d'une autre tous. Et c'est comme ça que le système se perpétue. C'est systémique, au même titre que le capitalisme lui-même ou le patriarcat, des systèmes que nous n'avons pas réclamés, mais nous devons nous en contenter.
Il peut y avoir des victoires ponctuelles remportées par des individus, mais au final, le rapport de force demeure en faveur des mêmes. Todd Haynes parle en filigrane d'un état de la société qui n'a pas commencé avec Trump.
Et Dark Waters sur les écrans aujourd'hui.
Merci Agnès Soubiran.